Vous êtes donc en direct sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Et voilà, avant de commencer, tempête sur les planches, juste des informations sur ce qui se passe à la librairie du Monde Libertaire Publico au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Aujourd'hui à 15h30, ce qui est théoriquement l'heure de fin de tempête sur les planches, mais on va sans doute terminer un peu avant pour vous laisser le temps d'aller à la librairie du Monde Libertaire. Là, un débat aujourd'hui sur le thème de ces refus d'obtempérer proclamés par les forces de l'ordre, la police en France et les morts que cela engendre. Donc, oui, une nouvelle. Est-ce que c'est une nouvelle peine de mort? C'est un peu le thème à la librairie du Monde Libertaire aujourd'hui à 15h30 dans un débat. Et le week-end prochain, samedi 29 octobre à 16h30, un concert avec Fanchant Demer, accompagné par Jacques-Yvan Duchesne, un concert qui s'intitule Les oiseaux de passage, des chansons avec les oiseaux pour vol conducteur, des oiseaux qui survolent, migrent, se posent sur les territoires, sur les terroirs sans frontières, d'où remontent les chants d'une vie à vivre, ensemble, solidaire et libre. Voilà, ça se passe le 29 octobre, samedi prochain, à 16h30 à la librairie du Monde Libertaire. Et le dimanche, le lendemain, dimanche 30 octobre, à 15h, un film, Une vie secrète, un film de Aitor Arregui, John Garagno et José Manigoniga, qui remonte à la guerre d'Espagne et qui nous parle des taupes. Ce sont des républicains qui ont été obligés de se cacher de Franco après la guerre et qui sont restés cachés pendant des décennies parfois. Et là, c'est l'exemple d'un camarade libertaire républicain qui a été obligé de se cacher pendant 33 ans avant de pouvoir revenir à une vie normale. Voilà, ça se passe à la librairie du Monde Libertaire, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Et à chaque fois, l'entrée est libre et à la fin, vous donnez ce qui vous plaît. Et maintenant, on se prépare pour Tempête sur les planches.
Nombreuses à vos postes de TSS, j'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
No more excuses. It's time to reveal the truth.
change de rythme un petit peu là, c'est Thomas d'Hambourg, Tempête sur les planches. On commence tout de suite. C'était Manu Dibango, c'est Thomas d'Hambourg, Tempête sur les planches, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Et bon, on vous a dit ce qu'il y aura à voir aujourd'hui et le week-end prochain à la librairie du Monde Libertaire, mais il y a autre chose, bien sûr, c'est la zone d'occupation artistique qui s'est posée, qui s'est installée à nouveau chaque année. Chaque année en octobre, Paris, c'est divers lieux parisiens. Et elle touche à sa fin. Déjà, il nous reste une soirée. On va vous expliquer ce qui va se passer. Et je salue Sabrina Weidmann qui vient chaque année pour nous présenter la zone d'occupation artistique ZOA. Salut Sabrina.
Salut Thomas, salut à tous. Et c'est vrai que cette année, le festival ZOA, zone d'occupation artistique, a été moins étalé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu moins d'artistes, mais il a été moins étalé dans le temps. Et même s'il reste diversifié dans l'espace, il a eu lieu du 13 octobre, à partir du 13 octobre, et il s'achèvera le mercredi 26 octobre.
Oui, et finalement, donc, on ne pouvait pas passer à côté de l'événement. C'est une sorte de rituel qu'on se retrouve ici, et donc inévitable et inépuisable aussi. Enfin, je l'espère. J'espère que la zone d'occupation artistique pourra continuer. Quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines, Sabrina, tu m'as dit qu'effectivement, ce n'est pas facile en ce moment que... Bon, les moyens qu'il faut pour financer un festival sont plus difficiles à réunir. Et tu m'avais dit aussi que c'était bien un rapport avec ça, entre ça et les Jeux Olympiques, c'est ça?
Oui, enfin, ça, c'est une hypothèse, simplement. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui est certain, c'est que la ville de Paris est terriblement endettée. Et donc la ville de Paris a réduit les subventions en direction aussi bien des festivals que des compagnies, que des lieux, les structures. Voilà, il y a un endettement effectif. Et je me dis que peut-être qu'en prévision des Jeux, ils ont diminué les subventions, mais ce n'est peut-être pas directement lié aux Jeux Olympiques de 2024, hein, pas nécessairement.
En tout cas, c'est pas ça qui nous fait jubiler ou mieux aimer les Jeux Olympiques. ça c'est sûr. Bon, et alors tu présentes les spectacles dans différents lieux qui sont fidèles à Zoin. Donc il y a eu des spectacles à l'Étoile du Nord, théâtre dans le 18e arrondissement, et à Point Éphémère, un lieu culturel très intéressant dans le 10e. Et maintenant, dans le 12e, le 100 ECS, ça c'est mercredi prochain, avec deux spectacles. Et tu peux nous dire un mot sur ce lieu qui est assez intéressant, tout de même. Hein?
Oui, avant ça, je vais redire un mot quand même sur Zoa, parce que même si on en reparle chaque année, les auditeurs ont peut-être oublié de quoi il s'agit. Donc Zoa, c'est un festival qui est un festival à la fois de danse contemporaine et de performance, qui réunit à peu près entre 5 et 6, 7 artistes chaque année. Et il se fait que ce sont très très souvent des femmes. Ce n'est pas fait exprès, mais manifestement, je pense qu'il y a d'autres espaces qui sont ouverts pour le renouvellement du côté des hommes. Et donc je m'intéresse beaucoup à ce que font les femmes, pas du tout dans une idée féministe ou pas, hein. Enfin, il y a pas, c'est ni féministe ni pas féministe, mais c'est une histoire de sensibilité, et cette sensibilité est liée d'une manière générale au Festival Zoa, avec le fait que je n'aime pas ce qui est formaté, je n'aime pas ce qui entre dans les cadres, et Zoa est définitivement, puisqu'on est à la 11e édition, on a les 10 ans derrière, est définitivement un festival qui sort des rails. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me touche. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir une durée bien précise, d'avoir un format bien précis, un contenu avec éventuellement de l'autocensure. Non, au contraire, il n'y a pas de tabou. Il y a une autorisation qui est donnée. Et pour moi, il y a la prise de risque de la création. La plupart des spectacles que je propose, que j'ai proposé cette année, sont des créations. Ce sera le cas des deux spectacles présentés au 100 aussi, au 100 ECS. Et voilà, c'est ça qui est passionnant, c'est la recherche, un espace de recherche qui est offert, et un espace de découverte. Et je pense que le public vient à la fois parfois en sachant ce qu'il va voir et parfois en ne sachant pas ce qu'il va voir, mais parce qu'il a envie de découvrir.
Hey, on allait bien sûr venir à l'identité de le Zoa, justement parce que ce que nous propose Mansouré Alaï...
Mais je veux bien dire deux mots du sang.
M'a l'air de représenter très très bien l'esprit. Vraiment, qu'on va droit au cœur de l'esprit de Zoa, avec Der Atem, le souffle que Mansouré va nous présenter mercredi prochain, à 20h dans cette soirée.
Avant ça, Thomas, je voudrais dire que le sang est un espace vraiment très très intéressant, qui est à la fois un lieu d'exposition. Donc il y a régulièrement des expositions qui, elles aussi, sortent de l'ordinaire. Et il y a une petite salle de théâtre qui est très, très bien aménagée, très, très harmonieuse dans les proportions. Il y a un rapport intime, scène-salle, qui me plaît beaucoup. Et donc, c'est un partenariat qui me tient à cœur. Et où l'accueil est bon également, ce qui est précieux.
Bon, alors tu peux nous présenter Mansouré, qui a beaucoup de cordes à son arc.
Donc, mais je pense que Mansouré Alaï va se présenter elle-même. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est une artiste qui est née en Iran, qui vit en Suisse, à Zurich, qui vient régulièrement en France aussi, et qui est vraiment fondamentalement en recherche, qui a la particularité d'avoir fait des études de médecine et d'avoir été médecin avant d'avoir d'être devenue danseuse et performeuse et chorégraphe, et qui a aussi étudié une série de pratiques alternatives du point de vue médical, et qui, avec tout cet acquis, présente quelque chose qui a une identité extrêmement personnelle. Et je suis très contente d'apprendre qu'elle vient à la dernière minute de changer le titre de sa pièce, c'est-à-dire qu'elle pensait l'appeler Der Atem, ce qui veut dire le souffle en allemand, et puis le souffle parce qu'elle s'inspire de Thomas Bernhardt, mais elle a décidé que Der Atem ne serait plus cité et que ça devient le souffle, c'est-à-dire ça devient fondamentalement la respiration et le rapport à la respiration. Et là, je lui laisse la parole.
Oui, Mansouri, bienvenue au studio Louise Michel de Radio Libertaire. Alors, oui, tu pourras sûrement nous expliquer hein, comment tout ton parcours maintenant se reflète dans cette proposition et qu'est-ce qui va se passer. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas pour me recevoir et aussi un grand merci à Sabrina Veltman pour avoir accepté ma proposition qui se situe entre un atelier et une performance. Le souffle, c'est une réanimation, c'est un duo d'un médecin-patient. Parce que c'est une constellation symptomatique pour notre société, je pense. Cette proximité de celle ou celui qui soigne ou celle ou celui qui a besoin d'être soigné. Avec cette proximité, je mets en lumière une situation qui révèle un problème plus profond de notre société. Une société stressée, étouffé par la pollution dans laquelle tout doit aller toujours plus vite, avec toujours plus de technologies et qui s'intéresse de moins en moins à l'être humain et à son existence.
Ce que je voudrais dire, c'est que quand Mansouret parle de médecin-patient, ce duo, c'est un duo qui est à l'intérieur d'une même personne, d'une seule personne, c'est à l'intérieur d'elle-même. Elle est son médecin et elle est son patient. Elle est celle qui va pouvoir se pencher, elle est la personne qui étouffe et elle est la personne qui permet à nouveau, qui réanime.
Et ce travail, cette performance se base sur le roman de Thomas Bernhardt, qui est un écrivain dans la langue allemande qui me touche beaucoup dans son style, dans sa c'est quelqu'un qui voulait être qui voulait devenir musicien chanteur, et il est tombé malade, et dans ce livre Le souffle, une décision, il décrit comment il est un patient terminal et l'infirmière l'amène à la salle de bain pour bientôt le laver en tant que quelqu'un qui est mort. Donc elle est en train de laver encore quelqu'un d'autre. Elle jette le torchon qui tombe par hasard à côté de son visage et pas sur le visage. Donc il aurait pu être étouffé déjà par ce torchon. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il décide de vivre, de continuer à respirer.
Et c'est autobiographique.
Oui.
Il était vraiment en sanatorium.
Et donc, il va mieux et il commence à plus respirer. Et il a pu être transporté dans un sanatorium, donc il est sorti de cet hôpital qu'il nomme le mouroir. Et dans ce sanatorium, il est confronté à un vide, aux montagnes de ce lieu. Et c'est là qu'il commence à lire plein d'œuvres littéraires. Et c'est à ce moment-là aussi, donc comme son instrument, ses poumons sont détruits et qu'il ne peut plus continuer à faire sa formation de chanteur et musicien, il décide d'écrire, de devenir écrivain Et c'est une œuvre très très importante pour Thomas Bernhard et aussi pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la respiration, qu'est-ce que ça veut dire ce rapport à l'extérieur que nous avons à travers la respiration qui concerne notre existence.
Et qui est aussi à l'intérieur dans le spectacle de Mansouret la question sur ai-je envie de vivre ou n'ai-je pas envie de vivre, c'est une question métaphysique qui se joue dans le spectacle.
Tout à fait, c'est un spectacle qui se situe justement entre un atelier et une performance. En tant que médecin, j'ai décidé de ne pas seulement chercher à connaître et soigner les pathologies, mais aussi chercher à comprendre et puis aussi de transmettre qu'est-ce que c'est que le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? Ça paraît comme une question évidente, mais pour moi, ce n'est pas évident du tout. Je pense que c'est une question qui nécessite de différentes approches médicales, artistiques, philosophiques, pratique pour vraiment en saisir les différents aspects. Et je pense aussi qu'il est inévitable en tant que médecin de s'engager avec son propre corps. Pour moi, le concept d'être derrière les livres pendant des années et puis traiter directement après les corps de patients, ça m'a toujours paru absurde.
Oui, Mansouret. Le souffle, c'est expliqué comme, ou décrit comme un atelier performance. Et quand on a un atelier, alors généralement, il y a quelqu'un qui transmet une connaissance. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'il y a dans ce que tu vas proposer une dimension interactive, quelque chose de participatif?
Oui, alors je vais effectivement la partie atelier qui est inclue dans cette performance, effectivement m'adresser au public, et le public est bienvenu de répondre les questionnements que je propose par rapport à la respiration. Et c'est aussi, il y a un contenu qui transmet aussi des faits scientifiques concernant la respiration. Et parce que la respiration inclut beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Et c'est aussi, la respiration est utilisée par beaucoup de gens dans le yoga, par exemple, aussi dans d'autres pratiques. Mais après, qu'est-ce que c'est que vraiment la respiration? Ça, c'est un sujet très vaste, je trouve.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut complètement voir la pièce comme un spectacle. C'est-à-dire que c'est un atelier, il y a cette dimension d'atelier possible où les gens peuvent réagir, interagir s'ils le souhaitent, mais ils peuvent aussi ne pas du tout réagir, parce que ça commence avec certaines données qui sont transmises, et puis ça dérive, ça dévie vers quelque chose de tout à fait inattendu. Et bien sûr, ça débouche sur une vraie performance avec un costume, avec un étonnement, voilà, des étonnements qu'on ne va pas vous révéler maintenant, mais
non, mais quand même, Mansouret, comment est-ce que se construit alors le lien, le rapport au spectateur? Et j'imagine que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus intimiste et qu'il n'y aura pas une jauge énorme non plus, qu'il y ait peut-être une limite pour que chacun puisse se situer dans un rapport un peu plus direct à ce qui se passe.
Le sang ne permet pas beaucoup de spectateurs. C'est un lieu où il y a 50 sièges, un petit gradinage. Donc, d'office, il y a un rapport intimiste.
Oui, c'est une salle qui a, que j'aime bien. C'est je pense que ça va être une belle ambiance entre ce rapport atelier, mais aussi performance. Effectivement, il y aura des moments de performance de danse. Et le texte de Thomas Bernard, évidemment, qui pour moi a quelque chose d'une composition musicale, sera sûrement aussi d'une façon ou d'une autre présente. Et oui, c'est, le public n'est pas obligé d'interagir, mais il y a cette liberté d'interagir, absolument.
Alors apparemment, tu as fait vraiment beaucoup de choses dans ta vie, en tant que médecin aussi, orthopédie, chirurgie générale, otorhinolaryngologie, gynécologie, ophtalmologie, en gros tu as presque tout fait. Et maintenant, comment tu es venu à t'intéresser au souffle, et quel rôle est-ce que ça joue dans le lien avec tout ce que tu as pratiqué?
Alors, je suis danseuse et médecin. D'abord, j'ai commencé par la danse. Et après, j'ai étudié la médecine. Et quand j'étais en médecine, j'ai continué la danse. Mais bien sûr que tu ne peux pas tout faire. C'est des pratiques très intenses. Et en tant que médecin, je voulais faire carrière. Donc effectivement, j'ai travaillé à l'hôpital et aussi à Paris. Je me suis spécialisée en ophtalmologie parce que les organes sensoriels m'intéressaient beaucoup. Donc je travaillais à un moment aussi à Rothschild, à Paris. Et par contre, il y a pour moi la science, le mélange de la science et l'art est très important. Et c'est pas séparé quelque part. Quand je serai sur scène, pour moi, c'est pas étonnant d'avoir cette partie scientifique et cette partie artistique qui se soutiennent quelque part et qui ouvrent des espaces. Et bien sûr, je pense, ça a aussi sûrement à voir avec le fait que j'étais née à Téhéran. La culture persane valorise beaucoup l'art, la littérature, la danse et la médecine, bien sûr, est très importante. Avicenne, c'est une grande figure qui est importante dans la culture persane. C'était un médecin qui a aussi écrit sa version de la conférence des oiseaux, par exemple, donc un livre de poésie. Et oui, cette valorisation de l'art ou cette inclusion des deux à la fois, ça permet de réfléchir à un sujet avec d'autres aspects, d'autres dimensions. Par exemple, pour réfléchir au corps, au souffle, c'est un sujet très complexe dans le corps. C'est le souffle. C'est à la fois aussi Rumi qui écrit des poèmes sur le souffle, qui commence avec son poème sur le souffle, et en même temps tu as aussi une interaction biochimique qui est aussi le souffle et aussi justement ce rapport à notre air, à nous, ce que nous nous inspirons dans nos villes comme Paris et Zurich, avec cette pollution qui perturbe quelque chose de très existentiel dans notre corps. Et je suis très inquiète pour ça. Je dois dire que c'est une dimension qui fait aussi que je thématise souvent la respiration parce que ça concerne tout le corps. La respiration concerne toutes les cellules et c'est pour ça que c'est même si je ne suis pas pneumologue, ou bien peut-être parce que je ne suis pas pneumologue, je peux thématiser la respiration d'une autre façon. Je peux thématiser la respiration, ne pas partant des pathologies, mais de réfléchir, c'est quoi la respiration d'une personne en bonne santé? Qu'est-ce qui serait l'air, par exemple, qui serait l'air que nous pourrions respirer et avoir un espace avec les odeurs, etc., qui nous fait vraiment respirer.
Alors, on pourra voir, assister à Le Souffle, que tu proposes mercredi prochain au 100 ECS, qui se trouve au 100 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement. Et après, est-ce que tu prévois des échanges? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que, bon, il y a des échanges d'idées, de pensées, après, entre toi et le public?
Non, non, et en fait, il y a une autre performance avant. Là, avant mon souffle à la haie, il y a la performance de Jessica Guez. Il n'y a pas d'échange avec le public. Il y a vraiment une soirée avec, en deuxième partie, un atelier performance et en première partie, une exposition performance. Jessica Guez est une jeune femme qui est française, qui vit au Portugal. Et qui fait sa première création à Zoa. Et c'est une création où elle a travaillé en fait à partir de son imagination, beaucoup. Son imaginaire et les œuvres d'art qu'elle a vues, des œuvres anciennes, beaucoup elle a, sur la musique pop aussi. Elle a fait des peintures à partir de là, ses propres peintures. Et ce qu'elle va mettre en scène, c'est sa présence à la fois dans trois espaces imaginaires, sa présence dans son atelier, sa présence dans sa chambre et sa présence sur la scène. Et ce qu'elle veut parvenir à toucher, c'est montrer comment dans ces différents espaces, elle est au plus près d'elle-même, au plus près de sa vulnérabilité, au plus près de sa fragilité. Donc, c'est très intéressant parce que elle joue vraiment sur un fil où il n'y a pas, en fait, il y a une dans cette performance où elle danse aussi avec ses peintures, il n'y a pas d'une certaine façon de facticité du corps, et bien entendu qu'il y en a une puisque c'est une performance. Mais elle voudrait être au plus près de ce qu'elle est quand on l'entreaperçoit en train de vivre dans ses espaces de vie habituels.
Oui, c'est toujours un peu difficile de cerner et de décrire les choses qu'on peut voir dans Zoa, justement. C'est ça qui fait l'intérêt, c'est que l'âme de la zone d'occupation artistique. Alors, ce que va proposer Jessica Guez s'intitule « Looking from a window above ». Donc, ça décrit une vue plongeante à partir d'une fenêtre. On ne sait pas où elle regarde dans son imagination, peut-être dans la rue. Regarder les gens, regarder elle-même. Et donc, ce que j'ai compris, tu pourrais nous parler d'elle un petit peu, Sabrina, que Jessica Guez, ça serait, si j'ai bien compris, une artiste française qui a décidé de vivre et de travailler au Portugal.
Elle n'a pas décidé. Enfin, c'est une artiste française qui est partie vivre au Portugal. Elle n'a pas décidé de travailler uniquement au Portugal. La preuve en est que sa première création, elle vient la faire à Paris, à Zoa.
C'est sa première création.
C'est sa première création. Donc c'est une véritable très grosse prise de risque. Elle a déjà montré des petites formes, des formes de 20 minutes par exemple, que j'ai vues. Et à partir de là, je lui ai proposé de l'accueillir avec sa première création à part entière, qu'elle considère comme sa première création à part entière.
Mais bravo, parce que ça veut dire que comme ça, tu es aussi quelqu'un qui permet à de jeunes artistes émergents, comme on dit, de trouver un lieu, un espace pour créer quelque chose, pour s'exprimer, pour mieux cerner pour ces artistes aussi. Et qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à dire?
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que je voudrais que Zoa reste un espace de recherche. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des gens comme par exemple Gurshad Shaiman, qui lui aussi est iranien d'origine, qui est né en Iran, ou Mohamed El Khatib, qui est né en Algérie, non, qui est né en France, mais qui est d'origine algérienne, sont passés par Zoa, et puis ont fait un parcours qui les amène dans l'institution et qui leur permet d'arriver au Festival d'automne ou au Festival d'Avignon aussi. Donc, c'est véritablement un tremplin pour les artistes. L'idée, c'est qu'ils passent par Zoa et qu'ils grandissent, bien sûr. Et qu'à un moment donné, il n'ait plus besoin de Zoa. Qu'il soit reconnu.
Et voilà. La zone d'occupation artistique, ce n'est pas pour rien que ça existe.
Voilà. Merci, Thomas.
Donc, on va faire une petite pause. On va écouter un peu de musique. Là, la grande chanteuse tanzanienne, Biki Doud, je vous propose celle-là. Et bah, vous écoutez Tempête sur les planches, Radio Libertaire 89.4 avec Thomas Dambourg.
wapigadana wanawake mama zetu mkuka wapigadana ijapokuwa mumewe hawezi kumwita bwana ana mgoja azae amwite babe kitwana juwatoka
Alors vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération Anarchiste. Là, on a écouté la grande chanteuse tanzanienne Biki Doudé. Et ben, nous revenons à nos moutons parisiens, à la zone d'occupation artistique avec Sabrina Weltman qui a créé ce festival et qui choisit toujours des propositions étonnantes et détonnantes. Et... voilà, elle nous présente aujourd'hui Mansouré Alaï. Et oui, Mansouré, tu voulais nous parler un peu de, je crois, d'autres pratiques qui influent encore cette proposition, cet atelier performance qui s'appelle Le Souffle, et où tu vas nous étonner. Et on pourra sans doute apprendre des choses sur nous-mêmes, sur notre souffle, réfléchir à nous-mêmes, à nos vies, etc. Donc, de quoi s'agit-il ?
Oui, c'est... je suis très concernée aussi quand j'étais en médecine, quand je pratique, je pratique toujours encore, mais très peu, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. C'est de créer des scènes, ça demande bien sûr beaucoup de temps et d'énergie, et s'entraîner aussi en tant que danseuse. Ce qui est pour moi très important, et je m'engage pour ça même, j'ai décidé de m'engager pour la danse, aussi en Suisse surtout, c'est que la danse enrichit beaucoup la médecine. Bien sûr, l'inverse aussi, mais ça c'est quand même aussi quelque chose que j'aimerais encore souligner. En médecine, j'ai appris pendant les études, on nous enseigne un corps statique, ce qui n'est pas du tout le cas de notre corps. Nous, notre corps est fait pour pouvoir s'enfuir, pour pouvoir chasser, donc c'est un corps très dynamique. Et je pense que c'est aussi ça que je thématise toujours, comment est-ce qu'on peut voir le corps en tant que quelque chose qui est tout le temps en train de changer. Même quand nous sommes assis maintenant, nous sommes en train de mourir et revivre. Donc il y a toujours des cellules qui meurent et d'autres cellules qui renaissent. Donc c'est tout le temps, c'est très dynamique. Et la respiration, c'est quand même un des sujets que j'aime beaucoup pour aussi... pour parler de ce côté dynamique. La respiration est très dynamique. Notre corps est toujours en mouvement aussi à travers la respiration, mais pas seulement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même étonnant. Le corps qui a aussi cette capacité de se régénérer. Donc, il n'y a pas que une vision pathologique, mais le corps se régénère tout le temps. Donc ça c'est une grande énergie et possibilité du corps qui est tout à fait sous-estimée. Et je suis quelqu'un qui m'engage aussi pour soutenir ce côté-là, pour transmettre ce côté du corps, parce que je suis aussi étonnée chez les athlètes et danseurs et danseuses combien ils sont. Ils savent pas ou ils connaissent pas le corps de ce côté-là. Donc le corps est, ils connaissent plein de pathologies, les gens connaissent plein de pathologies, mais finalement pas comment le corps fonctionne, le corps en bonne santé, quelles possibilités le corps a, et aussi le questionnement, qu'est-ce que ça veut dire notre corps et où est-ce que ça se délimite aussi? Est-ce que la limite est à notre peau ou bien beaucoup, beaucoup plus loin? Et je pense là, la respiration est un très bon sujet pour encadrer ou bien justement laisser des espaces ouverts pour aller vers d'autres réflexions.
Là, on est sur le corps individuel, mais il y a aussi le corps collectif. Et justement, parce que tu viens d'Iran, je sais pas depuis combien de temps tu vis en Europe, mais je pense que c'est quand même assez conséquent, ça fait assez longtemps, mais quand même, aujourd'hui en Iran, il y a aussi un corps collectif qui se réveille, qui aspire aussi à des changements. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes liens personnels encore avec l'Iran? Est-ce que tu as encore de la famille? Quel regard est-ce que tu as sur ce soulèvement qui a lieu en ce moment dans tous les pays en Iran?
Oui, alors moi je suis née à Téhéran et j'ai heureusement vécu ma petite enfance à Téhéran parce que j'avais mes grands-parents, ma grand-mère surtout, qui était un personnage très très important et fort en tant que femme. Et j'ai ma mère qui est à Téhéran maintenant. Et je suis très perturbée par le mouvement actuel qui est très dur à supporter parce qu'il y a une énorme violence contre celles et ceux qui se révoltent. Donc il y a des élèves, des enfants et des femmes, des jeunes femmes et aussi des personnes âgées qui sont attaquées. Et ça me perturbe beaucoup. J'ai remarqué tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que je n'arrivais pas à joindre ma mère par téléphone, ni par téléphone, ni par Internet. Donc j'étais très inquiète avec ce qui s'est passé. C'est un mouvement que... c'est depuis longtemps que je ne suis plus en Iran. Donc, j'ai quitté l'Iran en tant que petite fille. Mais bien sûr, la culture persane, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans ma vie, la littérature persane, la danse et la musique et aussi le cinéma, bien sûr, ça m'a beaucoup aidée à tenir quelque part aussi dans des moments pas faciles. Et je pense que c'est ça le lien aussi, c'est ce mouvement et ces violences qui perturbe quelque chose de qui est comme un petit paradis de l'enfance. Donc c'est je suis très triste quelque part, mais aussi très très heureuse que on voit enfin ce que le gouvernement iranien fait comme violence. C'est aussi violent d'avoir dû partir. Je veux dire, quand il y avait le couvre-feu du Covid, je me suis dit, ah, mais c'est incroyable. C'est comme à l'époque, quand j'ai dû, comme enfant, tout à coup, être loin de ma grand-mère, etc., où on ne pouvait plus se voir. Et du coup, c'était vraiment une situation comme ça. C'était pour moi, j'ai vécu comme un couvre-feu. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, etc., où on pouvait tout le temps se voir. Ce n'est pas la même chose, mais déjà ça, il n'y avait pas. Donc, on se téléphonait rarement. Et c'était comme un couvre-feu pendant... pendant très longtemps. Donc c'est très violent. Donc il y a cette question d'immigration qui s'est passée à cause du changement de régime de 1979. Il y a cette restriction des droits de femmes qui s'est passée autour de ces années-là. Donc tout à coup, les femmes qui devait porter le foulard. Et avant, il y avait une interdiction de du port du foulard. Donc le père de Charles avait interdit. Et cette décision d'extérieur, c'est quand même incroyable. Je veux dire, aussi, oui, en tant que danseuse et médecin, c'est quand même pour moi inimaginable qu'on me dise « j'ai apporté quelque chose ou pas » et « comment je dois m'habiller ». C'est vraiment, à Zurich, on dirait, c'est un « no-go ». Donc, je pense que c'est le moment que ça se termine. Et les femmes, je pense qu'elles vont gagner. Je pense qu'il y a une tradition très, très puissante des femmes dans le féminisme. Je sais qu'à Paris, peut-être on ne parle pas du féminisme. Ce n'est peut-être pas le sujet qui passe facilement comme ça. Mais je dois dire qu'en Iran, il y a une tradition féministe. Et aussi à l'époque, quand il y avait la révolution en 1979, les femmes se sont révoltées, mais après il y avait la guerre entre Iran et Irak, et tout à coup, voilà, on n'a plus thématisé ça, ça n'a plus été soutenu par les hommes non plus, parce que on disait attends, il y a des sujets plus importants, les jeunes sont en train de mourir au front, donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le moment, je pense. C'est le moment que ça change. Et je demande vraiment aussi à tout le monde d'essayer de soutenir ce mouvement comment on peut, parce que c'est un mouvement comme un mouvement de Gandhi. Donc les femmes sont là, sans violence. Elles enlèvent leur foulard dans la rue. Et les gens, donc aussi les hommes, sont là tout simplement et soutiennent ça avec des chansons, avec des gestes très poétiques aussi, en écrivant sur les ballons juste liberté et des choses comme ça. Et puis c'est vraiment supprimé violemment, incroyablement violent. Et je pense qu'il faut soutenir ce mouvement pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Il y a un problème actuellement, il y a un problème à tous les niveaux avec ce régime. Il y a un problème de liberté des femmes, il y a un problème aussi écologique, il y a un problème que les chefs-d'œuvre d'architecture dans le pays sont en train d'être détruits. C'est quand même une richesse dans l'humanité. Nous avons des églises très anciennes, il y a des synagogues, il y a des mosquées très anciennes. Le régime, ils font pas attention à ça. Donc ça, c'est en train de se détruire, tout ça. Et aussi, la littérature persane, qui est quand même très importante, est supprimée des écoles. Il y a vraiment une destruction qui s'est passé et ça, maintenant, c'est vraiment le temps de mettre fin à ça.
On va espérer aussi que dans quelques temps, il sera à nouveau possible en Iran de créer des spectacles de danse, d'exprimer des points de vue par la danse, ce qui est évidemment interdit aujourd'hui. Donc, mais merci beaucoup, Mansouri. Ça n'a maintenant rien à voir avec le souffle, cet atelier performance que tu nous proposes dans le cadre de la zone d'occupation artistique. Mais c'était important que tu en parles quand même. Et donc, Sabrina, tu peux nous rappeler comment va se dérouler cette soirée mercredi prochain au 100 ECS, 100 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement.
La soirée démarre à 20h avec la performance de Jessica Guez. Cette performance est suivie d'un entracte. Et ensuite, on verra la pièce, l'atelier performance de Mansour et Alaï. Et puis voilà, il y a un bar où le public peut rester déjà pendant l'entracte, où il peut boire un verre, et puis après un bar où il peut rester un petit peu s'il a envie, pour rencontrer les artistes, pour discuter, pour se retrouver en tout cas, et pour aussi commenter voilà ces deux propositions.
Et voilà, et j'y serai mercredi prochain. Je suis très, très curieux de découvrir ces deux propositions-là. Merci à vous deux d'être venus, et bon après-midi et bonne préparation au 100 ECS. Et puis, ben, à bientôt.
Merci à toi. Merci.
Merci beaucoup, Thomas.
Já nel moia soa ta soma. Foi surpresa quando entra. Faltam só os maia. Conta cada dia as boas ansias. Até que fim já busca.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Até que fim já busca. Não senta a noite inteira tá confessar. Tá beijar, tá amar, tá lembrar dia que não encontrar. Na madrugada, na hora, tanta sonhar. Na desejo, na promessa que nunca mais não tá separar. Dia que vou desgatar lumiragem. Foi surpresa quando entra. Faltam só os maiores. Conta cada dia duas essências. Até que fim já busca. Não senta a noite inteira, tá confessando. Tá beijando, tá amando. Tá lembrando dia que não encontrar. Promessa que nunca mais não está a separar. Dia que vou chegar a me realizar. Como vou apertar, não sei estar a chorar. Naquele abraço cheio de emoção. Invade-me coração. Roga cada noite e vou presença. Até que fim já vou ficar.
avocat.
Qui mangera
sur la rivière, ce grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Balanche, un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustre cru qui passe et c'est moi qui le viens chercher. Moi, parce que ce soir je ne dors guère, moi parce que ce soir je ne dors pas froid. Les clochards somnolaient sur la grille fumante et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. Et j'étais avec Raymond qui m'a dit: mon colon, il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la rue White, la rue White. Une rue bordée de colonnes, il n'y a jamais personne, il y a simplement l'air des voies des chemins de fer. Où passent des lanternes tenues par des gens courts dans les talons qui sonnent sur ces années grillées. Sur ces colonnes de fonte qui viennent du Parthénon, on l'appelle la rue White, parce que c'est la plus bête, la rue White. C'est une rue couverte, c'est une rue ouverte, c'est une rue déserte qui remonte tout debout. Des chats décolorés filent en prise directe sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y pleut jamais. Le jour c'est moins joli, alors on vient la nuit pour traîner ses savates le long de la rue White, la rue White. Des rues dont on cause, qu'ont pourtant pas grand chose, des rues sans caractère, juste un peu putassiennes. Mais au bout de Paris, près de la gare d'Austerlitz, vierge et vague et morose, la rue White se repose. Un jour j'achèterai quelques mètres carrés pour planter mes tomates là-bas.